c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme?
Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en.
Eh bien, moi, je plonge.
Et voilà, c'est reparti pour un tour.
Le 13 janvier dernier, au beau milieu de l'Antarctique, un jeune homme, en larmes, se tenait debout dans l'alignement de l'axe de la rotation de la Terre. À 27 ans, Mathieu Torder devenait le plus jeune explorateur à rejoindre le pôle Sud depuis la côte, seul, en autonomie totale et sans assistance. L'exploit a été salué par les médias. Mais qu'est-ce qui a poussé cet aventurier à entreprendre cette traversée de 1130 km en région polaire? Qu'est-il allé chercher dans cet univers de glace et de neige? Comment a-t-il vécu la solitude, le soleil qui ne se couche jamais, l'absence d'odeur, le manque de repères auquel accrocher son regard? Il va nous le dire pour notre première de l'été. Mathieu Torder nous fait l'amitié de passer par notre bivouac. Et en fin d'émission, nous découvrirons un nouveau rendez-vous. Chaque semaine, l'historien de l'alimentation Éric Birloez nous proposera une odyssée gustative. Nous verrons comment les explorateurs d'hier ont apporté dans nos assiettes de nouvelles saveurs et de nouveaux goûts. Aujourd'hui, nous irons au Mexique, sur la piste de la tomate. Mais pour l'heure, on met le cap sur l'Antarctique.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Je suis en train de déjeuner et je vois le pôle. Je viens de hurler. Je vois le pôle! Il est à 21 km. Je pensais pas que je pourrais le voir de si loin. J'ai vu quelque chose de scintiller et puis après je vois une petite barre noire et c'est la base scientifique. Je vois le pôle. Ça fait 50 jours que je marche. Je vois le pôle. Ah là 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 là. Après tout ce temps. J'y serai demain, je vais prendre le temps.
J'y serai demain, je vais prendre le temps. Mathieu Torder, à 21 km de l'objectif un peu fou que vous vous étiez fixé, le pôle Sud. L'émotion est forte, hein, on l'entend. 50 jours après votre départ, à ce moment... Vous le savez, vous avez remporté votre pari, vous êtes en train de réussir votre défi.
Effectivement, je suis vraiment très très proche du but. C'était une expédition qui était plus complexe que ce que j'avais imaginé. Évidemment, quand on se lance dans une expédition polaire en solitaire, on va pas s'attendre à ce que ce soit facile. Mais cette année, il a fait très chaud en Antarctique. Et le fait qu'il fasse chaud, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de masse d'air chaude au-dessus du continent et qu'il a beaucoup neigé. Donc le fait qu'il neige en Antarctique de manière importante, c'est pas normal. Mais là, moi, je me suis retrouvé sous 30 ou 40 cm de neige fraîche dès le début de l'aventure. Et donc, en fait, j'ai été beaucoup plus lent que ce que j'avais imaginé. Et donc, c'est vrai que voilà, voir le pôle enfin, et bien je me dis que c'est très proche.
Donc les larmes, ce sont des larmes de joie ou ce sont les nerfs qui lâchent après tout ce que vous avez enduré pendant ces 50 jours seul à ski sur le continent blanc?
C'est un peu un mix de pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fatigue, évidemment, à la fois physique mais aussi mentale, hein, parce que c'était 50 jours d'efforts physiques continus. J'ai pas pris un seul jour de repos hein, pendant quasiment 2 mois à skier, parfois jusqu'à 12 heures par jour. Donc évidemment, physiquement, je craque un petit peu. Après, c'est la réalisation d'un rêve d'enfant quand même. C'est le fait de voir ce petit point noir à 20 km, c'est génial quoi. Moi j'ai rêvé de ça depuis que je suis enfant et le voir là et de savoir qu'il reste ces 20 km, c'est à la fois loin 20 km mais à la fois si proche après quasiment 2 mois.
Ouais. Alors on va reprendre l'histoire depuis le début hein, évidemment, détailler votre parcours. En quoi consistait le défi que vous vous étiez fixé exactement?
Alors l'idée c'était de partir de la côte du continent antarctique, hein, donc de ce continent qui est le plus au sud du globe, et de partir relier le pôle sud, donc l'axe de rotation de la Terre. Je voulais faire cette expédition en répondant à plusieurs conditions. La première c'est que je voulais la faire tout seul. Moi j'étais assez curieux de faire cette expérience de la solitude. Je la voyais un petit peu comme un luxe, et je la vois toujours un petit peu comme un luxe d'ailleurs. Et donc je voulais faire cette expérience de la solitude sur une longue durée. Donc ça c'était la première chose, je voulais partir tout seul. Et je voulais faire ça sans assistance, c'est-à-dire sans voile de traction, sans un kite, sans chien de traîneau. D'ailleurs, les chiens sont interdits maintenant en Antarctique pour pas bouleverser l'écosystème. Mais donc, sans assistance extérieure, uniquement à la force des jambes et des bras, parce que je poussais sur mes bâtons de ski, et sans ravitaillement. Donc, on dit en autonomie totale, ça veut dire pas de ravitaillement de nourriture sur la route.
C'est-à-dire que personne ne déposait sur votre parcours de quoi vous nourrir.
Exactement. Et donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis parti de la côte du continent, je suis parti avec tout ce dont j'avais besoin, mon équipement, mon alimentation, l'alimentation et je suis resté autonome jusqu'au pôle sud.
Alors vous n'en êtes pas à votre première aventure, hein. À 27 ans vous faites déjà partie de la Société des explorateurs français. Vous avez déjà pas mal fait d'expéditions, hein. Un tour du monde en 4L pour promouvoir la microfinance. Vous étiez parti passé par où pour ce tour du monde?
Alors c'était un vrai tour du monde dans le sens où on est parti, alors je dis on parce que j'étais avec mon ami d'enfance
là
cette
pour
fois.
Le coup voilà, ouais. Ça n'était pas en solitaire.
J'étais pas tout seul et donc on est parti de Rouen en Normandie parce qu'à l'origine je suis de cette ville-là en Normandie et le projet c'était de partir rouler vers l'est et de rouler le plus possible sur la terre et quand on arrivait au bout de la terre de mettre la 4L dans un container et de monter sur un bateau et de traverser l'océan pour continuer notre aventure. Donc c'était un voyage qui a pris un an à travers 40 pays. On a fait en tout 50 000 kilomètres. Oui. Donc c'était quasiment sur tous les continents sauf l'Océanie et l'Antarctique.
Mais alors ça c'est un exemple parce qu'en fait vous avez aussi fait une course de 250 km dans le désert, traversée de l'Atlantique à la voile, l'Europe à vélo, la traversée à vélo de la Chine au Pakistan. Vous avez déjà découvert 90 pays. Alors vous avez réussi à mener toutes ces expéditions en parallèle de vos études ou...
Ouais, alors c'est vrai que ça paraît très curieux dit comme ça. On se demande un petit peu de quoi est faite ma vie et mon quotidien. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu la chance en fait de faire des études dans lesquelles j'avais du temps l'été. Alors j'étais pas par exemple étudiant en médecine où on doit faire beaucoup de stages dans le milieu hospitalier par exemple. J'avais la liberté parfois de disposer de mon temps l'été. Alors parfois j'avais des stages obligatoires que je faisais, mais sinon le reste du temps, je travaillais un petit peu dans un restaurant ou j'étais serveur en fait dans un bar, surtout pour mes premières aventures. Et sur le temps qui me restait, eh bien je partais à l'aventure et je partais à vélo, en kayak, à pied.
Alors certainement que toutes ces expériences ont forgé un mental pour pouvoir affronter ce nouveau défi du pôle sud, mais là quand même vous mettiez la barre beaucoup plus haut, hein. Jamais vous n'aviez fait une expédition aussi engagée.
Non, c'est vrai que l'expédition antarctique c'était pour moi l'expédition de tous les superlatifs, c'est-à-dire que c'était la plus solitaire parce que j'étais tout seul, la plus longue, la plus ambitieuse, la plus compliquée sur le plan logistique à mettre en place. Donc c'est vrai que ça demande une vraie préparation. Moi je me suis entraîné dans les environnements polaires pendant environ 50 jours en 3 expéditions différentes, à la fois au Groenland mais aussi au Svalbard et en Norvège, à la fois pour m'entraîner physiquement mais pour tester du matériel, pour tester de l'alimentation. Et puis c'est vrai que ce qu'on évoquait, les expéditions précédentes depuis ces quasiment 10 dernières années, c'était une forme de préparation, à la fois de connaissance de soi et une préparation mentale.
Alors votre expédition était parrainée par l'explorateur Jean-Louis Etienne. Il y a 30 ans tout juste, lui aussi s'était rendu en Antarctique pour mener l'expédition Transantarctica. Il s'agissait d'effectuer la plus longue traversée du continent en traîneau à chien. Cette fois, il n'était pas encore interdit, avec 5 coéquipiers. Et ils étaient partis de l'extrémité de la péninsule antarctique en juillet 1989 pour arriver à la base russe de Mirny, 6300 km plus loin. Et ils avaient fait une escale par le pôle sud. L'étape avait été l'occasion d'une communication en direct avec le grand public à la Villette.
Si la Villette, Jean-Louis, est-ce que tu nous entends ?
Oui, je vous entends très très bien. Est-ce que vous me recevez là, vous ?
Ah, nous, on te reçoit parfaitement d'ailleurs. Je ne sais pas si tu entends ici les applaudissements. Voilà les applaudissements, je ne sais pas si tu entends. La première question, tu viens de traverser l'Antarctique, tu l'as fait un petit peu pour qu'on se pose la question de sa protection. Qu'est-ce que tu as à dire aux enfants, là, maintenant que tu viens de terminer ?
Ah, ben je leur dirai un peu ce que j'ai dit au début. L'Antarctique est un immense continent, c'est grand comme l'Europe et les États-Unis, donc c'est géant, c'est pas un petit jardin. Et en général, ce qu'on connaît de l'Antarctique, c'est la péninsule, c'est-à-dire le bout du nez un peu. Et là, on vient de traverser le continent qui est immense. L'intérieur du continent, il est fort, il est puissant, il est géant, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à craindre. À l'heure actuelle, l'Antarctique est un continent qui est tout blanc, il faut qu'il le reste. Ce qui est important, c'est que c'est un continent qui n'appartient à personne. Et donc je crois qu'il est temps sur un continent comme ça, que tous les pays s'accordent pour dire, eh bien celui-là, on l'offre à la jeunesse, on l'offre à la planète, on l'offre à tout le monde, et on n'y touche pas pour toujours. Je crois que c'est ça qui est important, il faut que ce continent soit... je dirais le continent de tous les hommes.
L'expédition Transantarctica de Jean-Louis Etienne effectuée en 1989 et 1990, hein, 7 mois passés en Antarctique. Vous n'étiez pas né donc, hein, Mathieu Tordeur. Ces mots résonnent comment quand vous l'entendez dire « il faut que cette terre reste une terre à tous les hommes, qu'elle n'appartienne à personne ».
Ouais, quand j'entends Jean-Louis Etienne... trouve que ces mots ont jamais été autant d'actualité. Aujourd'hui, c'est vrai que ce continent est toujours, on a toujours ce statut. C'est toujours un continent qui n'appartient à personne, mais c'est un continent qui est menacé puisque ce traité, il va expirer. Alors en 2041, si je dis pas de bêtises. Et après, il va soit être prolongé, ce qu'il faut espérer à mon sens, soit effectivement, ce sera un petit peu la course à toutes les opportunités sur ce continent. Alors l'homme n'a jamais eu de présence de manière autochtone en Antarctique. Aujourd'hui, il y a des bases scientifiques, mais je pense que ce serait bien que ça reste comme ça. Ouais.
Quel conseil vous a donné Jean-Louis Etienne avant votre départ? Lui qui connaît les lieux, qui en connaît aussi les dangers.
Alors, il les connaît évidemment encore mieux que moi, évidemment, parce qu'il a pas fait qu'une seule expédition en Antarctique. Jean-Louis, il a été une vraie source d'inspiration pour moi, d'abord, parce que moi, j'ai grandi en lisant ses récits. Là, l'expédition à chien Transantarctica, moi, j'avais lu son bouquin il y a des années, et ça m'avait inspiré, justement, à mener mes propres aventures, mes propres expéditions. Donc, il a été une source d'inspiration énorme. Après, Jean-Louis Etienne, dans mon aventure, il m'a fait l'amitié d'être le parrain de mon expédition. Il m'a surtout donné un petit peu de confiance. Il a été très bienveillant à mon égard et il m'a dit de croire en mes rêves, de garder toujours ce rêve de pôle sud à la surface quand les moments étaient difficiles. Il a eu la gentillesse de m'envoyer un petit mot justement pour mon anniversaire quand j'étais seul en Antarctique et puis aussi à mon arrivée. Et donc le savoir un petit peu près de moi finalement dans cette expédition avec son parcours, avec sa connaissance des lieux, et bien c'était assez réconfortant et c'était, ça faisait beaucoup de bien.
Alors vous nous avez dit, hein, vous êtes allé au Groenland pour vous entraîner aussi en Norvège, mais vous êtes aussi entraîné à côté de chez vous, à Paris, en traînant des pneus. Évidemment, ça a attiré l'œil des caméras et notamment de celle de France 3.
En fait, ça imite exactement ce que je vais faire en Antarctique, c'est-à-dire tirer un traîneau de 100 kilos. Et là, dans un environnement tempéré, je pouvais pas prendre mon traîneau, mais je peux le remplacer par des pneus. Donc j'ai connecté deux pneus et qui sont connectés à mon harnais que j'aurai en Antarctique. Et en fait, bah, je fais travailler mes bras, je fais travailler mon dos, je fais travailler mes jambes. Et je pourrais le faire dans une salle de muscu, mais je suis pas trop salle de muscu, donc je préfère venir ici, même si les gens me regardent un peu bizarrement. Ça me permet de m'entraîner avant l'effort à venir en Antarctique.
C'est sûr que vous n'avez pas dû passer inaperçu, harnaché à vos pneus en plein bois de Boulogne, Mathieu Tordeur.
C'est vrai, c'était deux gros pneus de 4x4. C'était assez amusant parce que c'était à l'automne 2018, ouais. Donc quelques mois avant de partir en Antarctique. Et j'ai le souvenir en fait en train de tirer mes pneus, de créer des allées parce qu'en fait je déblayais les feuilles et les petits branchages qui étaient sur les chemins. Et donc les gens qui me regardaient, je me demandais s'ils pensaient pas que j'étais un employé de la mairie de Boulogne qui venait déblayer un petit
peu. Une nouvelle technique mise au point. Ouais. Il fallait vous entraîner à tirer quel poids?
Alors le traîneau que j'ai tiré pour aller au pôle sud pesait 115 kilos. C'était tout mon matériel et toute ma nourriture. Donc ça fait une fois et demi mon poids. Dans le bois de Boulogne, j'ai pas reproduit les 115 kilos, mais j'allais m'entraîner surtout en fait sur les petites pistes de sable sur lesquelles les chevaux s'entraînent. Je savais pas, mais il y a des pistes comme ça dans le bois. Et en fait, la friction entre les pneus de 4x4 et le sable imitait bien justement l'effort que j'allais fournir en Antarctique.
Oui, alors vous dites du matériel, très peu de vêtements finalement. Vous avez pratiquement, vous voyagez très léger en tout cas. C'est surtout en fait de la nourriture que vous transporter.
Ouais, c'est l'essentiel du poids du traîneau et de la nourriture et un peu de carburant. En fait, le carburant sert à faire fondre la glace et la neige parce que moi, l'eau, je dois la fabriquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau à l'état liquide en Antarctique. C'est un congélateur qui est permanent. Du coup, j'avais surtout de la nourriture et un petit peu de combustible dans mon traîneau. Et sinon, le reste, c'était de l'équipement. Très peu de vêtements. Moi, il y a une anecdote que je donne assez régulièrement et qui fait sourire et qui me fait sourire. D'ailleurs, c'est que j'ai changé de caleçon qu'une seule fois. Et la première fois, au bout de 36 jours.
D'accord. Alors effectivement, c'est bien que ça vous fasse sourire. C'est une expérience en soi, hein, j'imagine.
Ouais. De garder après, le même. Je vous rassure, maintenant, je change de caleçon tous les jours et je prends des douches tous les jours, mais c'est vrai que là-bas, on est très contraint par le froid et par le matériel qu'on peut tirer ou pas.
Quand vous êtes lancé dans ce défi, pas celui du caleçon, hein, mais du pôle sud, comment ont réagi votre entourage, vos parents, vos amis? On imagine de l'inquiétude.
Évidemment, évidemment. Alors après, c'était, j'ai envie de dire, peut-être de la chance que ce ne soit pas ma première aventure. Donc je les avais un petit peu préparés d'une manière assez douce, en fait, à cette expédition, parce que moi, ça faisait un peu moins de 10 ans. Enfin, ça fait un peu moins de 10 ans maintenant que je pars à l'aventure à droite à gauche. Alors parfois en 4L, parfois en kayak, parfois à pied, parfois à vélo. Et là, à ski, ça faisait quelques années que j'en parlais. Donc
ils se sont fait à l'idée.
Voilà, ils étaient préparés d'une certaine façon. Après, c'est vrai que quand on part tout seul en Antarctique, ça fait naître forcément quelques inquiétudes. Je pense que des parents, on aura beau les rassurer autant qu'on veut, il y aura forcément une part d'inquiétude et c'est bien normal. Donc moi, mon travail, enfin ma façon de faire, c'était de les rassurer le plus possible, de montrer évidemment qu'il y avait un plan de secours si jamais il m'arrivait des soucis sur la route. Et de toute façon, même vis-à-vis de moi, je partais pas sans la possibilité de me faire secourir.
Comment on se prépare psychologiquement ? C'est-à-dire que, d'accord, il faut rassurer son entourage, mais il faut aussi être... se persuader soi-même qu'on n'est pas en train de prendre des risques démesurés.
Ouais, alors c'est une préparation qui est longue. Hein. On se dit pas, je crois qu'on se réveille pas un matin en se disant qu'on va aller au pôle sud. Je pense que c'est une construction, un cheminement qui est assez long. Et donc la préparation mentale, moi j'ai la sensation qu'elle a commencé il y a bien longtemps. C'est-à-dire que moi j'ai découvert un petit peu l'aventure en partant à vélo tout seul, traverser une partie de l'Europe de l'Est juste après mon bac. Et je crois que le fait de partir tout seul, d'apprendre à me débrouiller, d'évoluer en pleine nature, assez jeune, assez tôt, ça a été une forme de préparation tout au long de mon cheminement d'aventurier.
Ce qui fait que lorsque vous arrivez au point de départ en novembre 2018 en Antarctique, vous vous sentez prêt, pas d'appréhension. Vous voyez ce petit avion qui vous a déposé à l'endroit du point de départ, hein, sur la côte terrestre de l'Antarctique. Il redécolle, il vous laisse là seul. Alors, il y a quelques autres explorateurs qui vont eux aussi tenter un exploit, mais très vite, vos chemins se séparent. Donc, très vite, vous allez être seul. Quand vous voyez cet avion qui redécolle, vous ne doutez pas de ce que vous êtes en train de faire. Vous ne demandez pas ce que vous faites là.
Si, un petit peu. Alors effectivement, je doute pas dans le sens où je ne regrette pas d'être là. En revanche, je sais bien que les 2 mois qui sont devant moi vont pas être les 2 mois les plus simples. J'essaye de me convaincre que voilà, j'y suis, qu'il faut y aller, qu'il faut, de me rappeler un petit peu toute la préparation que j'ai effectuée pour être là. Il y a ce rêve de Pôle Sud. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de labeur et de travail et de sueur devant moi, mais je regrette pas. Non,
sauf que vous dites, j'essaye de me rappeler de tout ce que je me suis mis en tête. Vous oubliez un petit peu vite la prudence, puisque dès le premier jour, vous manquez de tomber dans une crevasse. Enfin, vous enlevez vos skis parce que ça glisse un peu, et puis finalement, vous vous enfoncez.
Ouais, alors effectivement, ça c'est le premier jour. Donc, je suis parti d'un point qui s'appelle Herculean Inlet, qui est effectivement sur la côte du continent antarctique, près de la plateforme de Rhône. Et le premier jour, c'est là où il y a le plus de dénivelé. C'est-à-dire que l'Antarctique, c'est pas un continent qui est plat. Et donc moi, comme je pars à peu près du niveau de la mer et que le pôle sud est à quasiment 3000 mètres d'altitude, il faut que je monte. Et c'est là que le traîneau est le plus lourd. Et en fait, je glissais avec mes skis sous lesquels il y avait des peaux de phoque, et tout simplement j'arrivais pas à accrocher la neige, donc j'ai pris la mauvaise décision d'enlever les skis pour mieux accrocher la neige. Et il se trouve que quand on enlève ses skis, et bien son poids, il est plus réparti sur 2 mètres de ski, il est réparti sur ses 2 pieds, et qu'on est plus susceptible de passer au travers de la neige et de la glace. Et effectivement, je suis tombé, je me suis enfoncé dans un trou qui était probablement une crevasse jusqu'au genou, et je me suis fait bien peur.
Ouais, dès le premier jour, premier risque évité de justesse. Vous n'étiez pas au bout de vos peines. Cette expédition en Antarctique va se révéler plus difficile que prévu. Vous allez nous le raconter. On met le cap sur le pôle sud avec Mathieu Tordeur, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Coming on strong now. I feel
I feel an urge coming on, c'était Nick Waterhouse sur France Inter.
Ah putain, j'avance pas. Je prends la caméra parce que j'en ai ras-le-bol.
Ça fait 48 heures que je suis dans le whiteout, j'en peux plus, là, ça commence à me fatiguer. J'avance à l'aveugle, je sais pas où je mets les pieds, je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai dû faire 8 km aujourd'hui. Je suis à 1000 km du pôle sud.
On entend dans les bourrasques de vent, je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai dû faire 8 km aujourd'hui, je suis à 1000 km du pôle sud, le redoutable whiteout auquel vous avez eu à faire face, Mathieu Tordeur, lors de votre expédition, objectif pôle sud, en Antarctique. C'est quoi exactement le whiteout ?
Le whiteout, c'est un phénomène optique qui est très particulier parce qu'il annule tout sens de l'espace, toute perspective, tout contraste. Et donc on a vraiment la sensation de se retrouver au milieu d'un nuage ou carrément à l'intérieur d'une balle de ping-pong géante. Donc c'est très curieux parce qu'on a du blanc vraiment tout autour de soi. On peut regarder au-dessus de soi, à gauche, à droite, derrière soi, c'est blanc partout.
On ne distingue pas l'horizon.
Et on ne distingue pas du tout l'horizon. C'est voilà, la neige se confond avec le ciel. C'est très déstabilisant parce que l'oreille interne comprend plus grand chose, donc ça peut donner un petit peu la nausée. J'arrivais plus du tout à anticiper les variations du terrain parce que parfois il y avait des bosses et donc je me retrouvais parfois par terre. Donc c'est vraiment du blanc partout et c'est très perturbant parce qu'on sait pas trop où on va.
Et pour garder le cap alors, on fait comment? On se fie à ces instruments?
Moi j'avais une boussole qui était harnachée en fait sur le bas de mon ventre et ça me permettait en fait de me déplacer en fonction de l'aiguille et sans ça, j'aurais fait des tours sur moi-même quoi parce que il y a pas de point à l'horizon sur lequel on peut se fixer un repère ou un cap.
Ouais. Alors à ce moment-là, vous avancez beaucoup moins vite que prévu, hein, les étapes pour arriver dans le nombre de jours que vous aviez prévu, une cinquantaine de jours en fonction des vivres que vous aviez emportés avec vous. Il fallait avancer à raison de 22 km en moyenne par jour. Là, vous n'êtes pas du tout à ce rythme-là.
Tout à fait. Alors, c'est normal de ne pas être au même rythme tout le temps sur ce genre d'expédition sans ravitaillement puisque le traîneau se décharge au fur et à mesure des jours.
C'est ça l'avantage. Plus on mange et plus c'est léger.
Exactement. Donc, c'est normal d'être plus lent au départ. En revanche, c'était pas normal d'être aussi lent pour moi. Et en fait, ça s'explique par le fait que, ce que je disais un petit peu au départ, que la météo a été très mauvaise. Il a fait très chaud en Antarctique. Et le fait qu'il fasse chaud, ça a rendu la neige molle.
Alors quand il fait chaud en Antarctique, c'est moins 6 degrés. Hein.
Voilà, c'est ça.
C'est pas les tropiques non plus. Hein.
Pour mettre les choses dans leur contexte, c'est vrai. Il faisait, pendant un mois, il a bien fait entre moins 5 et moins 15 degrés. Mais moi, j'étais plutôt préparé pour des températures de moins 30, voire en dessous. Hein. J'avais de l'équipement pour descendre jusqu'à moins 50 degrés. Et là, le fait qu'il y ait des masses d'air chaude au-dessus de l'Antarctique, il a beaucoup neigé, la neige a été molle. Et en fait, quand la neige est molle et qu'on tire un traîneau de plus de 100 kilos, le traîneau, il s'enfonce dans la neige. Il y a beaucoup plus de friction. Moi, je dérape dans la neige molle. Et finalement, ça a été un calvaire sur les premières semaines de l'aventure.
Alors, on se dit quoi pour tenir pendant les moments difficiles, pendant les moments de calvaire? Comment on fait pour ne pas renoncer?
Mais il y a pas mal de choses. Moi, j'essayais de faire appel, enfin de convoquer des souvenirs. C'est-à-dire que psychologiquement, j'essayais de garder un flux de pensée positif. Donc ça passait pour moi en convoquant des souvenirs, en me remémorant des expéditions, en me remémorant des bons moments passés avec ma famille, avec mes amis ici à Paris ou en Normandie. Ça me faisait m'évader, tout simplement. Parfois, je me projetais dans le futur. Donc c'est-à-dire que j'essayais d'envisager l'arrivée ou la suite de cette expédition, ce que j'allais faire. Donc c'était un moyen pour moi d'avoir un petit peu de choses à quoi penser. Et autrement, sinon, j'utilisais des moyens un peu plus artificiels, j'ai envie de dire, où j'écoutais beaucoup de musique, beaucoup de podcasts. Les podcasts, j'en écoutais quasiment tous les matins en sortant de ma tente. Ça m'aidait justement à sortir et à avancer.
J'espère qu'il y avait des programmes de France Inter parmi vos podcasts.
Oui, ouais, il y en avait pas mal. Vous en faisiez partie.
C'est vrai, vous aviez besoin d'entendre les aventures des autres aventuriers pour vous soutenir.
Exactement, j'essaie de pas trop écouter du polaire hein, parce que les podcasts sur l'Antarctique, j'essayais de me faire ma propre expérience, mais j'ai écouté beaucoup de podcasts, beaucoup de musique. Ouais.
Et à chaque fin de journée, vous établissiez votre campement. On profite d'une accalmie pour voir à quoi ça ressemble.
Alors, là il y a mon traîneau. Là c'est l'entrée de ma tente, ma pelle qui me sert à creuser des trous, notamment pour les toilettes. Ici, mon réchaud. Donc là il n'est pas encore en action, mais je mets de la neige dedans et ça me fait de l'eau liquide. Ma réserve de neige est d'ailleurs ici. Et voilà là où je passe l'essentiel de mon temps quand je ne skie pas. Alors souvent, enfin même tout le temps, je dors ici à droite. Là j'ai mon panneau solaire qui capte les rayons du soleil pour recharger mes batteries. Là j'ai mes thermos, mes gourdes, ma nourriture, ma petite bouteille pour faire pipi, pour éviter d'avoir à sortir. Voilà, je suis pas mal du tout.
Pendant 51 jours, tous les soirs, il a fallu que vous installiez ce campement et puis au petit matin, tout remballer. Et attention, hein, par tout temps, c'est-à-dire que en cas de tempête, ce qui s'envole est perdu. Et si votre tente s'envole, ça peut vous coûter la vie. On doit se sentir très vulnérable avec cette petite carapace infime pour faire face aux éléments.
Extrêmement vulnérable. C'est ce continent... C'est le continent de tous les extrêmes, quoi. C'est le continent le plus froid, le plus sec, le plus venteux de la planète. Et donc le fait de s'y déplacer, il faut être préparé. C'est-à-dire qu'on manipule pas de l'équipement sans gants. Quand on monte sa tente dans le vent fort, moi c'était les moments les plus intenses. Comme vous le dites, si je laisse échapper ma tente dans 60 km/h de vent, je n'aurai aucune chance de la rattraper. Il y aura rien pour la rattraper non plus parce qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de rochers. Bon, il y a des montagnes en Antarctique, mais il n'y en avait pas sur ma route. Donc si la tente s'envole, elle est perdue. Donc moi, le travail tous les soirs, c'était aussi fatigué que je pouvais être. C'était toujours d'attacher la tente au traîneau et vraiment d'essayer d'être très présent à ce que je faisais pour éviter tout drame.
Alors, le froid, l'absence de repères, hein, on l'a dit, l'absence d'odeur aussi, le soleil qui ne se couche jamais, c'était l'été austral pour vous. Tout ça, c'est déstabilisant, c'est apaisant, on a l'impression d'être ailleurs, d'être nulle part.
Mais on a un peu l'impression d'être sur une autre planète aussi, c'est-à-dire que il y a assez peu de couleurs en Antarctique. Alors parfois il fait très beau et le ciel est bleu, mais c'était pas la majorité du temps quand moi j'y étais, où le ciel était plutôt gris voire blanc. Donc il y a assez peu de couleurs. Ce sont des bruits qui sont différents aussi. On pense aussi que c'est un environnement silencieux. En fait, ça ne l'est pas tellement. Il y a souvent du vent. Le vent fait du bruit sur la tente. Les skis font du bruit sur la glace. Les vêtements en se touchant font du bruit. Donc c'est un environnement qui est assez sonore. Et puis effectivement, il y a très peu d'odeur. Donc c'est un continent qui est fabuleux, mais qui est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir.
Et pour tenir le coup, vous mangiez énormément, trois fois plus qu'en temps normal.
Je suis content de manger, hein, c'est bon. Mais ça vaut pas un steak tartare et ou une bonne tartiflette. Un truc bon, quoi. Un vrai truc. Chaud. Ça me manquait un peu les fruits, les légumes, la fluidité, la nourriture fraîche. Je peux dire que quand je vais rentrer en France, ce sera nos limites. Parce que là, manger du gouda congelé depuis 2 mois, en me gelant les doigts, ça va 2 secondes. Hein.
Ça va 2 secondes. Alors de quoi étaient faits vos repas exactement, Mathieu Tordeur ?
Alors dans une expédition comme ça, on est très contraint par le poids, donc il faut prendre de l'alimentation qui soit à la fois énergétique mais pas non plus trop lourde, et puis évidemment comme on est dans un congélateur permanent, il faut qu'elle soit la plus déshydratée possible. Donc moi j'avais de la nourriture déshydratée ou lyophilisée pour le soir, et puis sinon toute la journée je mangeais des noisettes, des fruits secs, beaucoup de chocolat, et puis j'avais du salami aussi qui était si gras pour le coup qu'il gelait pas. J'avais de la viande séchée, j'avais aussi du fromage qui lui était gelé mais je le faisais ramollir dans une soupe de nouilles chinoises avec de l'eau chaude. Et puis il y avait un élément aussi, c'est que je mangeais environ 100 ou 150 grammes de beurre par jour. Alors pour donner c'est quand même quasiment la moitié d'une tablette, enfin une tablette de beurre.
Mais vous mangez en croquant dans le beurre comme ça?
Non, je le mettais en fait dans le lyophilisé. Ouais. Donc je serais incapable évidemment de refaire ça maintenant ici en France, mais là-bas on a un tel besoin en fait de calories qu'on les ingère facilement.
Ouais. Et côté hygiène, alors vous nous avez dit, hein, un seul caleçon, pas de douche non plus, on imagine, difficile de prendre une douche
Non, effectivement, pas de douche. On n'a pas accès à l'eau sous l'état liquide, quoi. Donc, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de robinet.
Le peu d'eau que vous utilisez pour boire ou pour votre alimentation, pour réhydrater, c'est l'eau que vous faites fondre de la glace.
Exactement, ouais, ouais. Je fais fondre la glace et la neige. Donc ça, c'est un processus que je répète tous les soirs où je fais fondre, voilà, de la glace et de la neige pendant une heure et demie. Ça me fait 4 litres d'eau. Et ces 4 litres d'eau-là, je les utilise pour à la fois boire et me faire à manger. Donc, pas de douche. Après, à part, enfin, je pouvais me laver un petit peu avec des lingettes et me brosser les dents, mais je pouvais pas faire beaucoup plus.
Quand même, brossage de dents.
Ouais, quand même.
Vous allez nous raconter votre arrivée au pôle Sud dans un instant, Mathieu Tordeur, le premier Français et le plus jeune explorateur à avoir atteint le pôle Sud à ski en autonomie et sans ravitaillement, est avec nous, le temps d'un bivouac.
Tout doucement, comme ça. La vie, c'est épatant. Tout doucement. Tout doucement, comme ça. La vie, je la comprends. N'allez jamais trop vite, vous aurez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces gens énervés qui ne savent pas aller. Tout doucement, comme ça, afflamant gentiment. N'allez jamais trop vite, en un mot simplement, pour avoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour en deviendra, c'est blottir dans vos bois.
Tout doucement, c'était Feist sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Non, je rejoue avec le feu dans la tente. Mais là, c'est mon anniversaire, donc je fais ce que je veux. Voilà, j'ai 27 ans, ça y est. Je suis au 11e jour de mon expédition en Antarctique. Il me reste encore pas mal de route jusqu'au pôle Sud. Donc voilà, j'ai 27 ans, c'est... Ça fait rien, mais être ici, c'est assez dingue. C'est assez fou. Alors, je crois qu'il faut que je souffle. Mais je vais souffler quand même en musique. Parce que c'est quand même vachement plus sympa. Alors. Joyeux anniversaire. Formidable. Maintenant, je vais pouvoir manger ça. J'avais pas prévu ça dans mon apport calorique.
4 décembre 2018, vous fêtiez vos 27 ans au milieu de nulle part, en Antarctique, Mathieu Tordeur. Vous allez aussi fêter Noël et le jour de l'an, hein, là-bas. Vous aviez prévu quelque chose? Il y a cette petite carte, alors vous aviez pas pris beaucoup de caleçons, mais vous aviez quand même pris cette petite carte pour vous jouer joyeux anniversaire. Honnêtement, c'est réjouissant ou c'est déprimant de fêter ces 27 ans tout seul au milieu de nulle part?
Alors, je l'avais prise, mais c'était mes parents et mes frères et sœurs qui m'avaient glissé ces petits paquets dans mon traîneau. Je crois que c'est un le lien justement qu'on crée avec avec les proches et ceux qu'on on laisse derrière pour faire ce genre d'aventure. Donc moi c'était assez réconfortant. C'est une expérience quand même très solitaire dans un continent, on l'a dit, très monotone. Et donc avoir ces petits éléments qui rappellent la maison, qui rappellent la famille et les amis, c'était réconfortant. Ouais.
Alors le fait de faire les bougies, de faire tout ça, vous le faites parce qu'il y a la caméra pour vous mettre en scène. Vous auriez été vraiment tout seul sans caméra, vous l'auriez fait ça?
Alors non, c'est vrai, entre nous, c'est vrai que il y avait un film qu'on a fait et l'idée c'était de ramener quand même des images qui parlent, et donc l'anniversaire, Noël, le jour de l'an, c'était des éléments un peu différents de ce que je faisais tous les jours, c'est-à-dire skier, donc il fallait marquer le coup, si je puis dire, et donc ces éléments avec la carte que je ne savais pas que j'allais avoir, parce que c'était un des cadeaux, c'est des images qui sont sympas et je crois qu'on l'entend un petit peu dans cet enregistrement. Moi, j'étais assez jovial ce jour-là.
Oui, vous avez l'air... D'ailleurs, vous l'êtes encore plus jovial sur un événement alors inattendu. À un moment, toujours au milieu de ce continent, vous croisez deux voitures ou trois voitures d'Islandais qui traversent. Ils reviennent du pôle sud où vous allez. Ça fait une journée, je crois, qu'ils sont partis du pôle sud. Donc, vous n'êtes pas encore arrivé tout près. Et ça vous met dans une certaine euphorie de les croiser, ces Islandais. On sent à ce moment-là quand même que la solitude vous pèse.
Ouais, absolument. Moi, quand j'écoute ces images ou que je les vois, c'est vrai que je me reconnais pas. J'ai l'impression d'être drogué. Ouais. Et parce que ça fait 36 jours que je n'ai parlé à personne, que je suis tout seul avec moi-même, hein, et là il y a ces voitures qui arrivent en face de moi. Effectivement, c'était une expédition motorisée menée par des Islandais qui revenaient du pôle sud, et c'est vrai que c'est très curieux parce que à la fois moi je suis hyper curieux, excité de rencontrer des gens au milieu de nulle part comme vous le dites, mais d'un autre côté, et ça c'est, je l'ai vécu après, j'ai eu la sensation qu'on avait un peu violé mon intimité, qu'on m'avait extrait de ma solitude sans que je le choisisse vraiment. Donc c'était assez curieux comme rencontre, mais c'est vrai que l'excitation prend totalement le dessus quand je vois ces voitures au milieu de nulle part, ça paraît complètement fou, quoi.
Alors ils ne vous ont pas aidé, hein, ils ne vous ont même pas donné un biscuit, hein, ça a pas truqué le résultat.
J'aurais refusé dans tous les cas.
Et puis après 51 jours, le moment tant désiré arrive.
J'arrive au pôle sud, après 51 jours de marche, en solitaire. Ça fait des années que j'en rêve. Il est juste là.
Allô?
Allô maman, c'est Mathieu.
Ah.
Bah j'y suis.
Ah bon?
Ouais, ça y est, j'y suis. Ouais, je vous entends bien. C'est assez marrant, il y a une grande base et puis ouais, je suis hyper content. C'était comme vous le savez plus dur que ce que j'imaginais, mais c'est bon.
Ouais. On est vachement fiers de toi.
Bah merci, moi aussi je suis fier de moi.
Les parents qui éclatent de rire, soulagés de savoir leur fils arriver à bon port. Et on entend grésiller dans le téléphone. On est très fiers de toi. C'est un moment fort dans ce
moment. C'est évidemment beaucoup d'émotions. Moi, c'est vrai ce que je dis. J'étais fier de moi aussi. C'est-à-dire que c'est une aventure qui était difficile, hein, qui a été rendue encore plus difficile avec la météo compliquée cette année. Hein. Il y avait, on le disait au départ, que j'ai pas été déposé tout seul sur la côte du continent antarctique. Il y avait d'autres expéditions.
La plupart ne sont pas allés au bout. Hein, n'ont pas atteint le pôle sud.
Il y avait 7 expéditions sur ma route de Herculinette au pôle sud, et on n'est que 2 à être arrivés au pôle. Donc voilà, moi, j'ai réussi à mettre en place des stratégies et transcender l'effort avec plein de petites techniques mentales comme on l'expliquait, et évidemment il y a beaucoup de fierté à l'arrivée.
Ça ressemble à quoi alors le pôle sud, vous qui y êtes allé, Mathieu Tordeur?
Alors j'y suis allé, je peux en témoigner. Le pôle sud, c'est pas du tout comme le pôle nord, dans le sens où c'est habité. Il y a une base scientifique américaine qui s'appelle Amundsen Scott, et donc il y a plusieurs bâtiments avec des scientifiques qui travaillent toute l'année au milieu de ce continent. Donc c'est une multitude de bâtiments, dont un qui est plus grand que les autres et qui est gris et qui est monté un petit peu sur des pilotis.
Dans ce bâtiment, vous n'avez pas eu le droit de prendre une douche. Ils sont sadiques, les Américains qui vivent là, c'est pas possible.
Alors moi, je le savais que j'avais pas le droit de prendre de douche, donc il n'y avait pas de déception à l'arrivée. En fait, faut plutôt l'expliquer de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il y a quelques visiteurs qui viennent au Pôle Sud tous les ans, et donc on a le droit de visiter la base du Pôle Sud, mais on n'a pas le droit de voilà d'y manger, d'y dormir. C'est pas un hôtel, quoi. Ouais. C'est vraiment les gens y travaillent, et donc il y a une réglementation qui est en place. On n'a pas le droit de bénéficier du confort de cette base. On doit être autonome.
Alors là où vous étiez, on ne peut plus aller plus au sud. Toutes les directions autour de vous pointaient vers le nord. Tous les fuseaux horaires se rejoignent. L'heure locale, elle est basée sur quoi au Pôle
Alors,
Sud ?
Je crois que la base américaine, elle fonctionne sur le fuseau horaire néo-zélandais. Moi, j'étais resté sur le fuseau horaire chilien parce que j'étais parti du Chili pour commencer mon expédition, et donc j'étais resté sur le même fuseau horaire. Donc j'avais 4 heures de moins par rapport à la France.
Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Vous avez atteint ce rêve de jeunesse. Rapidement, c'est quoi l'étape d'après pour vous ?
Alors, pour moi, aujourd'hui, j'essaye de conclure cette aventure avec un livre. Donc là, on vient de finir un film de 52 minutes. Ouais.
Qui est diffusé sur Ushuaïa TV et qui va être multidiffusé pendant plusieurs mois.
Exactement, sur Ushuaïa TV, ça s'appelle Objectif Pôle Sud, ça dure 52 minutes. Donc l'étape d'après, pour moi, c'est d'abord de faire un livre. Et puis une fois que j'aurai fini ce livre, je me projetterai dans d'autres aventures. Les prochaines, j'aimerais bien m'engager dans une cause, alors que ce soit pour la biodiversité ou l'environnement ou le climat. Je ne sais pas encore. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu quasiment nécessaire, surtout pour les gens de ma génération, de s'engager avec un message.
Merci Mathieu Torder d'être passé. Il faudra venir nous raconter les aventures futures que vous vivrez. Restez avec nous dans un instant. On part au Mexique avec Éric Birloez, nouveau venu dans l'équipe du Temps d'un Bivouac. C'était Hubert Lenoir qui chantait « Fille de personne » et la programmation musicale du Temps d'un Bivouac est signée Djoubaka.
Regardez, des ignames, des papayes, des taros. Mais cette île est un jardin de richesse vraiment incroyable.
Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de tubercule, je ne peux rien dire avant de l'avoir cultivée.
Et qu'est-ce que vous dit cette carotte ?
Oh, c'est surprenant.
Bonjour Éric Birloez.
Bonjour Daniel.
Nouveau chroniqueur dans le temps d'un bivouac, spécialiste de l'histoire et de la sociologie de l'alimentation. Chaque semaine, vous nous raconterez le long voyage qu'ont fait certains aliments pour arriver sur nos tables et dans nos recettes de cuisine. Aujourd'hui, on commence par quoi ?
Eh bien aujourd'hui, je vais vous raconter les voyages de la pomme d'or ou si vous préférez, de la pomme d'amour.
Alors de quoi il s'agit ?
Eh bien tout simplement du légume qui, après la pomme de terre, est le plus consommé en France comme dans l'ensemble du monde, la tomate.
Cette tomate, elle vient d'où alors ?
Elle vient pas de l'Antarctique, non, non, mais elle vient d'Amérique, de ce nouveau monde qu'ont découvert des grands aventuriers, les conquistadors. Alors en 1519, une poignée d'Espagnols débarque sur les rives du golfe du Mexique. Ils y rencontrent les Aztèques et les petits fruits orangés que ces derniers cultivent depuis des millénaires.
Donc on peut dire que tout a commencé au Mexique ?
Alors oui et non, parce que les ancêtres sauvages de la tomate ne poussaient pas au Mexique, mais plus au sud, dans les vallées côtières de la Colombie, de l'Équateur, du Pérou, du nord du Chili. Et ces tomates sauvages étaient vraiment très petites, elles n'étaient pas plus grosses qu'une cerise. Certains botanistes pensent que des graines auraient pu être transportées par les vents ou par les oiseaux jusqu'au Mexique, où les paysans locaux auraient remarqué dans leurs champs la présence d'une nouvelle plante, une plante qui donnait des fruits ressemblant à ceux du physalis qu'ils cultivaient. Les paysans aztèques ont alors goûté les nouveaux petits fruits tombés du ciel, ils les ont appréciés et ils ont décidé de les cultiver.
Alors revenons aux conquistadors, est-ce qu'une fois découverte, la tomate parvient rapidement sur les tables du royaume d'Espagne ?
Eh bien non, les premiers Européens à manger des tomates ne furent pas les Espagnols, mais les Italiens du Sud. C'est dans le royaume de Naples, alors possession espagnole, il est vrai, que sont mentionnées pour la première fois, en 1544, la culture et la consommation de tomates. Mais dans le reste de l'Europe, la tomate est perçue comme dangereuse.
Ah oui, dangereuse. Pourquoi dangereuse ?
Ben, il faut préciser que la tomate appartient à la famille botanique des solanacées, de même que la pomme de terre, l'aubergine, les piments, les poivrons, le tabac, le pétunia, etc. Et avant de découvrir le Nouveau Monde, les Européens ne connaissaient que quelques espèces de solanacées. La mandragore, le datura, la belladone, la jusquiam. Or, ces plantes, bien de chez nous, faisaient partie des herbes de sorcières qui les utilisaient pour leurs effets hallucinatoires, mortels aussi, à forte dose, d'où la méfiance, on peut les comprendre. Ouais. Et du coup, on va cultiver la tomate dans les jardins français, mais comme une plante ornementale, décorative. Et finalement, il faudra attendre plus de 200 ans après leur arrivée en Europe pour que les gens du Midi se décident à cultiver des tomates.
Donc on mange de la tomate en Provence, mais ailleurs en France, pas encore à ce moment-là ?
Non, alors on lit parfois que les Parisiens ont découvert la tomate pendant la Révolution, lorsque des soldats provençaux sont montés à la capitale pour participer à la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790. On dit que ces militaires auraient réclamé à corps et à cri des tomates aux aubergistes parisiens, mais en réalité, la tomate était devenue populaire à Paris dans les années précédant la Révolution, grâce à des Marseillais qui étaient montés dans la capitale pour ouvrir des restaurants qui proposaient des tomates provençales. Les Parisiens, quand ils découvrent les tomates, eh bien, ils en redemandent. Le chemin de fer se développe, ça permet aux maraîchers du Midi d'expédier de grandes cargaisons de tomates fraîches vers la capitale. Et au même moment, apparaît une autre innovation, la conserve, inventée au tout début du 19e par le français Nicolas Appert. Et là, des tonnes de tomates en boîte parviennent dans l'Hexagone et notamment en provenance des colonies d'Afrique du Nord.
Pour autant, le voyage de la tomate n'est pas terminé.
Ah non, pas du tout. Au début du 19e, la tomate refait le voyage, mais cette fois dans l'autre sens. Elle avait été remarquée par Thomas Jefferson, le futur président américain, lors de son séjour dans le sud de la France dans les années 1780. Il en fait planter sur son domaine personnel, en Virginie, et rapidement, la tomate américaine devient l'ingrédient phare du ketchup. En 1876, un industriel, un certain Henry John Heinz, ajoute du sucre pour en adoucir le goût et aussi pour prolonger sa durée de conservation.
Et alors aujourd'hui, qui produit des tomates ?
Eh bien, il y a une vingtaine d'années, la tomate a pris une nouvelle fois la route pour se rendre en Chine, dans la province du Xinjiang, au nord-ouest du pays. Et aujourd'hui, une tomate sur trois produite dans le monde est chinoise. Mais comme les Chinois apprécient peu les tomates fraîches, l'énorme production locale est dirigée vers des usines qui fabriquent du concentré de tomates, qui est ensuite exporté pour être reconditionné ou transformé en sauce, en garniture de pizza surgelée, en soupe, en jus, en ketchup. Et cette transformation des concentrés de tomates, elle est notamment réalisée dans des usines italiennes, ce qui permet aux produits à base de tomates chinoises de bénéficier d'une mention beaucoup plus flatteuse et vendeuse « Made in Italy ».
Une petite recette à base de tomates pour terminer, Eric ?
Eh bien, en ces temps de canicule, moi je vous propose tout simplement une soupe froide bien rafraîchissante, avec des tomates bien sûr, et d'autres ingrédients issus eux aussi d'Amérique, les courgettes, les poivrons et le piment. Alors il vous faut 3 tomates, 2 courgettes, 1 poivron rouge, 1 gousse d'ail, un peu de piment d'Espelette. Vous lavez, vous coupez grossièrement les légumes et l'ail, vous mettez dans une casserole avec à peu près 30 centilitres d'eau, vous faites cuire une trentaine de minutes, vous mixez, vous ajoutez du sel, du poivre, du jus de citron, de la coriandre si vous aimez, et puis vous n'oubliez pas bien sûr quelques pincées de piment d'Espelette au frigo pendant 2 heures avant de déguster.
Merci Eric Birloez, nous allons mettre la recette sur la page du Temps d'un Bivouac. Bien sûr, je signale que votre dernier ouvrage s'intitule « Que mangeaient nos ancêtres de la préhistoire à la Première Guerre mondiale » aux éditions Ouest France. Merci Eric et à la semaine prochaine.
Merci.
Pour chaque départ, il y a un retour.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Pour chaque retour, il y a un départ aussi.
Demain à 16h, nous partirons à la découverte des grands fleuves de la planète et à 17h, retour sur le périple de 4 ans d'Alexandre Poussin et sa famille en charrette à Zébu à Madagascar. Ils sont enfin rentrés et ils vont nous raconter leur aventure. Et puis après le journal, vous avez rendez-vous avec Leïla Kadour pour un nouveau Mac de l'été. Bonjour Leïla.
Bonjour Daniel, merci de m'accueillir à ce micro. Et on reçoit tout à l'heure Fanny Ardant qui vient nous parler d'Hiroshima, mon amour. C'est le film de René, vous le savez.
Bien sûr.
Là, c'est sur scène au Théâtre des Bouffes parisiens et c'est un petit bijou.
Mais quel beau programme, ouais. Leïla, pour cette première. On vous suit avec un grand bonheur.
Moi aussi, je vous regarde.
À tout à l'heure.